L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, mais je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Nous serons observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé. La télé.
Bonsoir, il est 17h30 et vous êtes à l'écoute de l'émission Papillon, l'émission stéphanoise qui parle des prisons sur le 89.5 FM. Dans les studios ce soir, il y a Elsa.
Bonsoir.
Olga.
Salut.
Alex.
Salut.
Laetitia.
Salut.
Et moi-même qui vous dis bonsoir. Voilà. Alors, Olga, tu avais une petite info déjà pour commencer.
Oui, je voulais faire un petit appel à témoins là, ou à témoignages, comme on demande à chaque fois, suite au décès de la jeune femme au quartier femme de la Talaudière, qui s'est produit cette semaine. Donc, s'il y a des camarades de cellules ou d'autres personnes qui peuvent apporter leur témoignage sur les conditions de mort de cette personne, ils seront les bienvenus à Papillon. Donc, on peut nous joindre par courrier à Papillon, on donnera l'adresse plus tard. C'est vrai que c'est toujours pareil, hein, ces morts en détention nous posent des sérieux problèmes, mais ça serait bien qu'on ait...
Surtout que là, la version officielle, c'est une mort naturelle, donc ce qui est quand même une mort naturelle.
Ouais. Est-ce que c'est bien possible en détention? Et si cette femme était vraiment malade? Enfin bon, on veut savoir un petit peu plus, donc ce serait bien qu'on puisse en savoir un peu plus. Donc n'hésitez pas à nous apporter votre témoignage, ou vos témoignages.
Alors, pour le déroulement de l'émission, elle sera un peu spécifique cette fois-ci, puisque l'émission sera exclusivement consacrée aux longues peines et aux quartiers d'isolement. Donc, en fait, c'est dans le cadre d'une campagne nationale. Et pour nous, cette émission, c'est une manière d'y prendre part. Donc, il n'y aura pas seulement cette émission, il y aura aussi des rencontres fin novembre. On donnera un peu plus de précisions à la fin de l'émission. Alors d'abord, pour préciser peut-être un peu les choses très rapidement, ce qu'on entend par longue peine, en fait, ça varie selon les pays, mais en France, globalement, enfin de manière officielle, c'est des peines qui font plus de 5 ans. Au niveau des quartiers d'isolement, un quartier d'isolement, en fait, est prévu dans chaque prison, et ça permet aux chefs d'établissement d'écarter du reste de la détention des détenus gênants, suspects, meneurs, sans qu'il n'ait commis une faute disciplinaire. Ça permet aussi de protéger des détenus qui pourraient subir des agressions ou de provoquer un certain désordre par leur présence, par exemple des anciens flics. Voilà. Et l'isolement, c'est quelque chose qui n'est pas limité dans le temps et c'est quelque chose qui fait en sorte qu'un détenu donc placé à l'isolement n'ait pas de contact avec quiconque. Voilà, c'est réduit au strict minimum avec les matons. Et voilà, en gros, on y reviendra plus tard, mais c'est ça. Donc, la campagne dont on parle, elle a été initiée par l'ARPI. Donc, c'est Association pour le respect des proches de personnes incarcérées, dont on a déjà parlé dans l'émission. Et donc, elle a été rejointe par d'autres collectifs et associations. Et cette campagne se déroule donc de manière nationale et relayée localement au mois de novembre. L'élément déclencheur, ça a été l'évasion de la centrale de Moulins. Donc une centrale, en fait, c'est un établissement qui est réservé aux longues peines et aux condamnés considérés comme dangereux. Et c'est une détention qui est basée sur la sécurité. Donc l'évasion, c'était celle de Christophe Kieder et d'Omar Tepelage en février 2009. Juste après leur arrestation, ils avaient fait même pas 2 jours de cavale, en fait. Christophe Kieder a manifesté une volonté à son avocate que tout cela serve à quelque chose. Et donc, en fait, c'est que soit vraiment poser la question des longues peines et de l'isolement. Dire la réalité de ces peines et de ce régime de détention. Donc, au niveau des longues peines et de l'isolement, c'est pas la première mobilisation. Les prisonniers et prisonnières ont inscrit depuis longtemps déjà ces deux points dans leurs revendications. Par exemple, dans les années 70, il y a eu pas mal de luttes, notamment contre les QHS, quartiers de haute sécurité, qui ont été symboliquement abandonnés par la gauche en 82 pour les quartiers d'isolement. Il y a eu aussi, donc de manière un peu plus récente, en 2001, à l'automne, au moment de la célébration de l'abolition de la peine de mort, des prisonniers qui ont rappelé que l'on meurt toujours en tôle. Donc ça, c'était des prisonniers de la centrale d'Arles. Il y a eu aussi, en janvier 2006, à la centrale de Clairvaux, 10 prisonniers qui ont adressé un communiqué au ministère de la Justice et aux médias pour exiger que leur soit appliquée la peine capitale. Donc voilà, maintenant, on va peut-être s'écouter l'annonce de la campagne, le jingle.
Waouh !
Du 2 au 8 novembre 2009, une semaine de mobilisation contre tous les enfermements, contre la mort lente, des perpétuités et des longues peines.
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus, pour notre honte commune, des exécutions furtives à l'aube sous le dais noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
En 1981, les socialistes n'ont pas aboli la peine de mort, mais juste supprimé la guillotine. Et ils ont remplacé la peine de mort par l'enfermement, jusqu'à la mort. Jamais les peines prononcées par les cours d'assises n'ont été aussi lourdes. Jamais les aménagements de peine n'ont été aussi chiches, pour ne pas dire inexistants. Nouveau temps, nouvelles techniques, plus propres, plus efficaces, avec moins d'effusion de sang, mais tout aussi violente et meurtrière. Des prisonniers de la centrale de la maison.
Pour une semaine de mobilisation contre tous les enfermements, du 2 au 8 novembre 2009. Abolition des longues peines, abolition des peines de sûreté, abolition de la rétention de sûreté, abolition de l'intolérable peine de perpétuité, abolition des mitards et des quartiers d'isolement, fermeture pure et simple de ces lieux de destruction où les morts suspectes sont de plus en plus nombreuses, libération de tous les prisonniers malades et handicapés, application du rapprochement familial et affinitaire.
Alors pour revenir sur cette annonce qui fait le lien entre les longues peines et l'abolition de la peine de mort, il y a en fait un constat, tous les chiffres et études montrent qu'il y a eu une explosion des longues peines à partir de 1985. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de longues peines et que les peines sont de plus en plus longues. En fait, l'abolition de la peine de mort, donc en 81. Elle semble, même c'est sûr, elle ne s'est pas accompagnée d'une remise en cause de la prison. Donc en fait, l'idée, c'est pas de contester cette abolition, ni de nier la portée que ça a pu avoir à l'époque. Mais en fait, on peut quand même dire qu'il n'y avait pas de remise en cause de cette mise à l'écart prolongée, voire définitive de certains. Et que du coup, de manière presque systématique, sans réflexion et sans débat, eh ben, on a trouvé des peines éliminatrices, mais sous une autre forme, qui sont les longues peines. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'en fait, les longues peines, elles sont en partie la conséquence de cette abolition. Mais du coup, pas que. C'est également tout un système donc, qui est parfois en lien avec cette abolition de la peine de mort, mais pas toujours. Donc, entre autres, on peut parler de la limitation par rapport aux éventuelles confusions de peine. Donc, en fait, une confusion de peine, c'est la possibilité que la peine la plus forte prononcée englobe les peines les plus légères. Et du coup, en 2005, pour les personnes déjà condamnées pour une infraction et qui en commettent une autre, eh ben, la confusion de peine ne devient plus possible. Il y a aussi la multiplication des circonstances aggravantes, la diminution des remises de peine, la disparition des circonstances atténuantes, et aussi, ce qui est quand même super important, les peines de sûreté. Donc ça, c'est en 1978, et en fait, une période de sûreté, c'est une période durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine, donc pas de libération conditionnelle, rien du tout. Il y a eu aussi, en fait, une sorte de je sais pas comment dire, de nivellement par le bas, et c'est la multiplication des délits et l'allongement des peines dites courtes qui fait que, voilà, automatiquement, on arrive à des peines de plus en plus longues. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé dans les précédentes émissions, c'est la rétention de sûreté, donc c'est-à-dire enfermer quelqu'un après qu'il ait fini de purger sa peine. Pour pas faire trop long, on avait juste envie de donner quelques chiffres parce qu'ils étaient quand même super significatifs au niveau le fait qu'il y ait de plus en plus de longues peines. Alors en 85, il y avait en gros même pas 6000 personnes, enfin même pas, on ne peut pas dire ça comme ça, mais il y avait 6000 personnes condamnées à 5 ans et plus. Et en 2009, on en est à plus de 14 000 personnes au 1er janvier 2009. Donc ça, en gros, ça a presque triplé, quoi. Voilà. Et donc, assez rapidement, pourquoi on a eu envie de relayer cette campagne ? Donc on avait envie de parler et de dénoncer le côté mortifère des longues peines, mais aussi de mettre en lumière des choses qui nous semblent graves et méconnues. Alors en fait, les longues peines et l'isolement, ça peut apparaître comme le bout de la chaîne, en fait. Mais on pense que par les longues peines, il y a tous les fondements de la prison telle qu'elle est qui seront visibles. Par exemple, la prison est fondée sur ces trucs d'humiliation, de violence, de souffrance, de rupture avec la famille. Ça, c'est pour tout le monde, les peines dites courtes ou celles dites longues. Et les longues peines, ça met aussi en exergue ce truc par rapport à la réinsertion. Alors, le discours sur la réinsertion, il continue à se tenir sur les longues peines, ce qui est complètement absurde. Comment se réinsérer après 20, 30 ans, ou quel sens de ce mot-là pour les gens qui font perpétuité? Et aussi ce truc de l'opposition souvent entre les victimes les victimes et les gens qui sont condamnés, et ce truc de réparation. Donc la réparation, ça se bornerait, en fait, ouais. Que les gens y souffrent ou que les gens y crèvent en tôle, en fait, quoi. Donc voilà, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, on va s'écouter un morceau des Têtes Raides qui date des années 90 et qui traite des prisons.
Existe encore que l'on construit des prisons, et on a toujours dans la tête être bien et dans sa petite chaussette. Madame n'aime pas qu'on joue de la trompette, alors on construit des prisons, et il faut bien punir les assassins. Comme ça au moins on n'a pas tout perdu, et après on jouera au football, on laissera crever les assassins, et on mangera la part du défunt, et enfin prospérer les prisons. Et mon petit gars un jour sera promoteur, mais c'est pas comme cette bande de tueurs. Enfin, et pour les musiciens qui n'ont la go dans le roi des prolos, on en fera, et pour les parisiens, et mon petit gars n'est pas politicien. Un enfant aussi pour les enfants, et pour avant attendre le métro, et pour mon chien, et pour les écrivains, faut fermer tous ces assassins. Un enfant assis pour les pétins, un gâchot pour les intellos, un enfant et pour les africains, et central dans les pays australes. Les petits soins en tous ces assassins, mon petit gars, et pas ça par plaisir. Thank you.
Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur Radio Dio, comme disent les têtes raides, faites péter les tôles. Si vous nous suivez depuis le début, aujourd'hui c'est les longues peines. Et le sujet est assez vaste. On a voulu axer notre travail donc, sur trois points, qui sont le premier qui va être lancé par Elsa, qu'est-ce que ça représente de faire une longue peine. Le deuxième, c'est que se passe-t-il dans les quartiers d'isolement. Et le troisième, pourquoi peut-on dire que les longues peines sont des peines éliminatrices.
Ouais, donc voilà, longue peine, qu'est-ce que ça signifie en fait vraiment une longue peine? Parce que, comme l'a dit Laetitia, donc, c'est un espèce de processus historique très concret, c'est qu'il y a de plus en plus de condamnations et qu'elles sont donc à de l'enfermement et qu'elles sont de plus en plus longues. Voilà, donc les tribunaux ils condamnent des gens à 3 mois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire perpète. Et on peut voir ça comme un truc très technique, quoi. C'est la justice, elle distribue des peines comme ça, pouf pouf. Et puis on peut voir que ce chiffre, quoi, c'est une punition et tu seras mis à l'écart tant de temps. Mais en fait, c'est plus pareil, je trouve, quand on le regarde, quand on essaye de se rendre compte de ce que ça peut représenter au quotidien, en fait. Il y a de nombreux témoignages de détenus qui parlent de la longueur du temps en prison. Et surtout plus même que la longueur, d'un sentiment où on perd un peu la réalité ou la réalité dont on avait l'habitude à cause de cette manière étrange dont le temps il s'écoule quand on est enfermé. Ces témoignages se disent on n'est plus dans la même manière de vivre le temps que la manière dont on le vit à l'extérieur. Déjà à l'extérieur, on peut faire pas mal de choses, même si on est dans une société assez atroce et coercitive, dehors, on est un peu maître de son temps, et encore pas toujours, mais alors, quand on imagine qu'on est enfermé, tout notre temps, en fait, il est soumis à ce truc, en fait, du fait qu'on est enfermé, et donc ça change plein de choses, et ça change même la perception qu'on a de la réalité dans laquelle on est, quoi. Donc après, sur cette question de la longueur de la peine, tout enfermement il peut être considéré comme une longue peine. Quelqu'un qui va un mois, ça peut lui sembler être une éternité. Tu restes, pour faire l'expérience, une journée enfermée dans ton cagibi, si t'en as un. Ça peut te sembler être une éternité, quoi. Mais ceci dit, un an... Prendre un an de prison, par exemple, c'est pas comme prendre 10 ans ou comme prendre 20 ans ou perpète. Moi, je me disais que pour moi, en fait, une longue peine, c'était une peine d'enfermement. Quand tu la prends, t'en vois même pas le bout, en fait. Ou quand t'es dedans, t'en vois pas le bout. Et je pense que c'est pour moi ce qui différencie vraiment la courte peine, ce qu'on appelle courte peine, qui est toujours long, mais bref, de ce que nous, on va appeler longue peine. Et ce contre quoi donc des gens se mobilisent pour dire au moins et dire publiquement ça peut plus durer, on est en train de devenir taré à infliger ces peines là.
Ce qu'il y a, c'est que tu peux plus te projeter, quoi. Tu vois pas le bout, donc t'as plus de perspective d'avenir et du coup tu te projettes pas. Alors que effectivement, même si on est une année, c'est quelque chose de long pour une personne, mais on peut compter les mois. Et dire, ça sera fini au bout de après Noël, ça sera fini ou après telle période, ça sera fini. Alors que là, il n'y a pas de projection, et c'est ça qui doit être atroce et détraqué aussi psychologiquement, quoi.
Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'aussi quand on dit longue peine, c'est quand on conçoit que la durée dans le terme longue peine, c'est aussi le discours de l'administration pénitentiaire, en fait. Ouais. Et du coup, c'était juste une remarque. Donc utiliser juste concevoir la durée, c'est juste utiliser en fait le discours de l'administration pénitentiaire et pas de chercher, pas de prendre une autre parole en compte, en fait.
Ouais, voilà. Et justement, dans le cadre de cette campagne, il y a le journal et l'émission L'Envolée de Paris. Ils ont sorti un livre avec des tas de lettres et de témoignages dedans. Et donc, nous, on a puisé quelques extraits, justement, qui parlent de ce temps-là qui s'écoule, qui s'effrite, qui part en live et qui rend dingue. Donc, on va commencer par lire une lettre de Ali. Donc, c'était un détenu qui a envoyé cette lettre. On n'en lit qu'un extrait. Il a envoyé cette lettre au journal L'Envolée.
Longue peine. À quel moment s'aperçoit-on qu'on a une longue peine? Bien avant de passer devant un tribunal pour aller chercher l'addition, le prisonnier aura effectué quelques années. 5 ans à attendre, à être conditionné comme une marchandise. Lorsque l'on passe à la caisse, l'addition nous assomme.
15, 20, 25, 30.
Perpétuité. On perd connaissance, mais on reste quand même debout. Pourquoi on ne tombe pas? On ne s'écroule pas?
3, 4, 5.
5 ans d'attente, de conditionnement. On perd toute notion de temps. On est dans un état inconscient. On ne peut plus réagir sur le moment. Il lui faudra quelques jours, quelques semaines ou des fois quelques mois pour prendre conscience de sa peine. Et cela dans tous les sens du terme. Non, on ne passe pas devant un tribunal pour être jugé, mais pour être condamné. Et ce n'est qu'après cette condamnation que l'on commence à vous juger. Car, comme ils le disent, la peine sera afflictive et infamante. Car la condamnation est un fait, mais qui ne détermine pas dans l'absolu le temps que l'on fera. Ce n'est que pendant cette incarcération que l'on passera son temps à être jugé. Et ce ne sera qu'au vu de ces jugements que l'on vous accordera ou pas une permission, une semi-liberté, une conditionnelle, des remises de peine. Oui, lorsque l'on est longue peine, on essaye de ne plus compter. On est hors du temps, on n'est plus. Alors je ne sais pas s'il y a à méditer sur cette phrase d'Emmanuel Kant. L'esprit humain n'est conscient d'une progression dans le temps que parce qu'il sait compter. Il y a des moments où je me laisse aller à des rêveries. Le temps de ces moments-là ne se compte plus. Les jours, les semaines défilent. Je m'aperçois que le verbe défiler a plusieurs sens, comme celui de la fuite. Fuir dans un monde, un autre monde, un monde abstrait. Mais pour le moment, je suis amenée à revenir à la surface.
Oui, surface dans un monde, dans un temps où l'on fait semblant. Le semblant d'une vie qui n'est que survie, pour ne pas dire sous-vie ou sous-vide. Voilà pourquoi du plongeon dans l'abstrait, après avoir pris 30 ans de pige et fait 5 ans depuis, je me demande ce qui me maintient encore debout. Le pire, ce n'est pas ces 30 ans de pige. C'est plutôt de prendre conscience de ces lieux et de tout ce qui gravite autour. Même si l'on est amené à occuper son temps, c'est déjà égoïste, il vaudrait mieux le partager. À des activités diverses, on ne construit rien, ou alors tout n'est qu'illusion. Tout ce que fait le détenu, c'est de se créer un espace pour un semblant d'autonomie. Car c'est un paradoxe de parler d'indépendance dans un milieu coercitif tel que la prison. Dans une prison d'exclusion, de misère et de haine, il serait bon de se poser la question de l'avenir de ces personnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, qu'on y jette.
Voilà, donc ça c'était l'extrait d'une lettre d'Ali. Et ensuite, parmi les centaines d'autres extraits de textes de prisonniers qu'on aurait pu choisir, il y a cet extrait du livre « Les hommes dans la prison » de Victor Serge. Pour ne pas perdre la notion du calendrier, il faut compter attentivement les jours, marquer chacun d'un trait. Un matin, on s'aperçoit qu'il y a 47 jours, ou 120, ou 347, que c'est, en arrière, un chemin droit, sans le moindre accident, incolore, insipide, insensé. Pas un point de repère ne s'y offre au regard. Des mois ont passé, identiques à des jours. Des jours passent, identiques à des minutes. Le temps présent est lourd de torpeur. La minute est parfois merveilleusement ou atrocement profonde. Cela dépend, dans une certaine mesure, de soi-même. Il y a des heures rapides et de très longues secondes. Le temps passé est nul. Aucune chronologie de fait ne l'arrêtant, la durée extérieure n'existe plus.
We'll be right back.
Alors moi, je vais continuer avec les quartiers d'isolement. Je vais faire une petite présentation d'abord. Les quartiers d'isolement, comme on disait tout à l'heure, ce sont des cellules de 9 mètres carrés qui sont à l'intérieur même des prisons et où les personnes sont incarcérées 24 heures sur 24. Elles n'ont aucun contact avec les autres. Les seules personnes qu'elles voient, ce sont les matons. Elles sont seules pendant la journée, elles sont seules pendant les promenades, elles sont seules la nuit. Donc voilà, il y a des gens qui purgent 10 ans d'isolement, il y a des gens qui purgent moins. Alors je vais faire un petit historique quand même sur ces quartiers d'isolement. Ce sont les ancêtres des quartiers d'isolement, ce sont les QHS. C'est quand même un terme assez connu et on a entendu parler parce qu'il y a eu des grandes luttes pour les abolir dans les années 70. Alors ces QHS, quartiers haute sécurité, sont nés en fait avec la guerre d'Algérie. Ce qui est très triste, hein, bien sûr. Donc les prisons françaises étaient déjà pleines de réticents à la guerre d'Algérie. Et du coup, les prisonniers algériens ont constitué une nouvelle manne de prisonniers. Et donc on a refait des nouvelles... on a fait un encellulement différent. Donc, pour ces personnes qui étaient contre cette guerre, quoi. Enfin, je m'embrouille un peu les pinceaux, mais c'est pour dire que l'administration considérait certaines personnes comme des gens revendicateurs et, en tout cas, très sensibles à la propagande anti-française, comme des meneurs. Donc c'est à ce moment-là qu'est apparue dans l'administration pénitentiaire la notion de haute sécurité. Donc la notion de haute sécurité se concrétise par l'ouverture à Beaune d'un quartier de haute sécurité où il y a 31 places. Puis celle-ci sera fermée en 68 pour des raisons d'hygiène. Ensuite, il y a une autre prison à Mende qui s'ouvre dans les mêmes, avec les mêmes conditions d'emprisonnement, où il y a un peu plus de cellules, 46. Donc, jusqu'en 67, ces prisons accueilleront... je m'embrouille un peu, là.
C'est pas grave,
jusqu'en 60, enfin, à partir de 67 sera institué au niveau national un fichier de détenus particulièrement signalé. Et les textes officiels de l'époque stipulent que les prisonniers ne pouvaient être isolés dans la journée, mais seulement la nuit. Alors ça, ce sont les textes. Mais en fait, les gens sont isolés toute la journée et toute la nuit. Donc, en 75, un décret rend légal le régime des prisons, de la prison de Mende et des autres QHS, c'est-à-dire des locaux réduits, aucun aménagement prévu pour le regroupement des prisonniers dans la journée, aucun locaux collectif, les prisonniers sont isolés de jour et de nuit. Donc là, c'est officialisé. Et je vais vous donner quelques motifs officiels, toujours, de l'époque, censés justifier le maintien en isolement des détenus. Alors, par exemple, pour comportement correct, mais qui n'inspire pas confiance. Voilà. Ou alors, pour quelqu'un qui est défini comme meneur, qui incite les autres à revendiquer. Voilà des motifs pour lesquels on va à l'isolement, où il peut y avoir aussi... personne avec bon comportement, mais qui montre une volonté de réinsertion douteuse. Il peut y avoir conduite sans reproche, très intéressée par les questions politiques. Donc, dans les années 70, il y a eu des luttes, notamment menées par Messrine, Foucault, des gens qui ont voulu abolir ces QHS. Et du coup, en 81, au moment des élections, les socialistes ont voulu étudier cette question et ont voulu les supprimer.
On a fait un programme de campagne.
Au programme de campagne, il y avait l'histoire de la peine de mort. Et il y avait aussi les QHS. En fait, eux, ils proposaient d'utiliser d'autres moyens déjà existants pour isoler les gens, comme le mitard, et que la mise à l'isolement par mesure de précaution et de sécurité durerait que 3 mois, avec une possibilité de renouvellement d'une fois.
Alors, pour préciser ce qu'on disait, le mitard, c'est quelque chose de disciplinaire, alors que l'isolement, ça ne l'est pas, en fait.
Voilà, la différence...
Il n'y a pas de motif disciplinaire pour l'isolement.
Non, en fait, c'est pour...
Sécuritaire, quoi.
C'est plus sécuritaire, c'est des personnes qu'on trouve, dont on se dit que le comportement peut être dangereux.
Ouais, par exemple, pour donner un exemple actuel, vous savez, lors de la dernière émission, on avait parlé de la situation de Loïc Delière, sa situation actuelle. Donc lui, il est en centrale à Clairvaux et il s'est retrouvé à l'isolement, et donc dans des conditions vraiment très 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 dures. Et ben en fait, lui et ses proches et son avocat ne savaient pas pourquoi il y était. Et ils pensaient que c'était peut-être parce qu'il avait une très légère altercation avec un surveillant. Et en fait, ce que tout le monde autour dit, c'est parce qu'il est pote avec Antonio Ferrara. Et puis en plus, il ne se laisse pas faire en général. Ça montre bien ce truc. C'est pas il a commis une faute et il est sanctionné. C'est vraiment, lui, il a un profil qu'on n'aime pas. Donc, on va l'envoyer à l'isolement. Et puis, pour le calmer, quoi, un peu. Parce que bon.
Eh ben, ouais. Donc, toutes ces personnes qui sont à l'isolement encore aujourd'hui. Et donc, en 82, donc, la circulaire de Badinter veut supprimer les QHS. Donc, dans les faits, une fois les élections passées, cette soi-disant suppression des QHS s'est avérée être une réforme bidon, à savoir le remplacement des QHS par les quartiers d'isolement. Voilà, on arrive à aujourd'hui.
Symbolique.
Qui en sont... Pardon ?
Non, je dis symbolique.
Eh ben, on a changé de nom, en fait. Parce que QHS, donc, c'est haute sécurité, mais il n'y avait pas que des QHS. Il y avait aussi des quartiers de sécurité renforcée, des quartiers de plus grande sécurité. Et maintenant, on appelle tout ça quartier d'isolement. Donc, et les motifs de mise à l'isolement, par contre, n'ont pas changé. Quant à la durée, elle peut être illimitée aujourd'hui et renouvelable tous les 3 mois à l'infini. Alors, j'ai un petit peu cafouillé au début là avec l'histoire de la guerre d'Algérie, parce qu'en fait, ouais, je trouve que la guerre d'Algérie a été une guerre super prégnante dans la population. Et en fait, je trouve ça vachement dur. Les gens, ils étaient opposés à l'Algérie française. Et c'est des gens qu'on mettait en prison à l'isolement en France. Donc, ils étaient déracinés. Enfin, ils étaient enlevés de leur famille. Et on les mettait sur la métropole, quoi. Et c'est pour ça... Enfin, j'arrivais pas bien à m'exprimer par rapport à ça, parce que ça représentait, pour ces gens-là, un déchirement pas possible, quoi. Non seulement ils quittaient tout, ils étaient en lutte, et on les mettait... On les enfermait... en prison, quoi. C'est parti par... ça vient des problèmes politiques, quoi. C'est ce que j'ai découvert, c'est qu'au début, c'était vraiment pour des personnes politiques. Et aujourd'hui, ça a complètement basculé. Il y a les terroristes, effectivement, ou des condamnés politiques comme Rouillant qui ont purgé énormément d'isolement. Mais ça s'est élargi, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, Laetitia, maintenant, il y a 16 000 personnes, tu disais ? 14 000 personnes à l'isolement, quoi. C'est énorme.
Et je voulais bien rajouter un truc, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est en fait les témoignages qui parlent de l'isolement en général sont assez frappants, horribles, etc. Mais juste en regardant les textes et les pratiques, il y a aussi ce truc, par exemple, que l'isolement, théoriquement, permet les activités. Sauf qu'il faut que, par exemple, mettons pour des cours... ou pour une activité salariée, ou pour la bibliothèque, et ben en fait, il faut normalement que la salle, en gros, soit libre pour qu'un détenu placé en isolement y aille. Sauf que dans la pratique, et ben du coup, c'est jamais fait. Et du coup, le seul truc qui, dont les détenus parlent quand même un peu, style la bibliothèque, etc., et ben même tout ça, c'est y a rien en fait. Y a rien du tout à part 3 quarts d'heure de promenade le matin tout seul, et y a rien d'autre.
Et en fait, il y a aussi une surveillance accrue des matons sur les détenus, quoi. En plus, ils sont sans cesse espionnés et c'est une condition. Je trouve qu'on aborde un thème qui fait vraiment froid dans le dos, quoi. C'est vraiment l'humiliation complète et c'est encore une fois, voilà pourquoi la prison est vraiment à bannir, quoi, et à détruire. Alors là, on va vous lire un...
Je peux te poser une question, en fait, toutes les deux, comme vous avez pu bosser là-dessus, vous pouvez peut-être pas me répondre. C'est en même temps que s'est passé en fait des QHS au quartier d'isolement, est-ce que c'est à cette époque qu'on a créé l'étiquette DPS? Est-ce que dans tous les quartiers d'isolement, en fait, toutes les personnes sont DPS, particulièrement surveillées, détenues particulièrement surveillées?
Non, parce que je crois que ce que tu disais, c'est que l'étiquette DPS était... détenus particulièrement surveillés, c'était à l'époque des quartiers de haute sécurité, non? Ce que tu en parles, il me semble, dans ce que tu as dit.
En fait, non. Moi, je parle des... les personnes qui sont très... les plus grandes... Attends. Alors, quartiers de plus grande sécurité, en fait. Ouais. C'était vraiment pour les très dangereux. Enfin, ce qu'on disait, des très dangereux. Après, mais il y en a aujourd'hui, hein, des DPS.
Ouais. Mais toute personne placée, enfin, obligatoirement en quartier d'isolement, sont-ils des DPS, tu vois?
Ben, je pense que le problème de la personne est considérée comme dangereuse, quoi. Que ce soit pour ses idées politiques ou parce que il répond au bâton, enfin, parce qu'il refuse quelque chose. Souvent, ce sont des personnes considérées comme très dangereuses, mais on abordera ce sujet de la dangerosité, qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de dangereux, plus tard. Au mois de décembre, je crois.
Mais on se renseignera sur ça en même temps.
Pardon ?
On se renseignera sur ça en même temps.
Bien sûr.
Mais ça, ce n'est pas une question piège.
Non. Je voulais rajouter un truc. Excuse-moi, on t'embête. Mais alors, moi, j'ai entendu qu'à la Talo, on m'a dit que, par exemple, il y avait quelqu'un, donc j'espère pour lui qu'il n'y ait plus, qui était à l'isolement, donc il y a un quartier d'isolement aussi à la Talo, ou au moins une cellule, parce qu'il se plaignait tout le temps, en fait. Enfin, il trouvait apparemment, donc selon donc un autre détenu qui m'a raconté ça, apparemment le gars, il trouvait toujours de quoi pinailler, dire, regardez, selon le règlement n'est pas appliqué, mal appliqué, ce n'est pas équitable. Enfin, vous voyez, quelque chose que... Peut-être qu'il était un peu relou, mais moi, je trouve que c'est une manière de se défendre aussi. Et bref, apparemment, lui, il aurait été mis à l'isolement juste pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, ça fait froid dans le dos, justement, comme tu disais. Et ça me fait penser que... Ben, moi, j'entends pas mal de trucs qui sortent de la Talo. J'ai quasi jamais entendu parler du quartier d'isolement. Et s'il y a des gens qui savent comment il est, comment ça se passe... pour quelles raisons on y envoie des gens, et ben, ce serait vraiment cool que cette info-là circule et qu'elle sorte et que les gens dehors se rendent compte de ce qui se passe là-bas derrière. Oui.
Et du coup, casser l'isolement.
Tout à fait. Après, oui, une personne qu'on peut considérer comme l'emmerdeur, entre guillemets, ce ne serait pas surprenant. Voilà, c'est des gens qu'on met au banc encore de la détention et... Ben, c'est l'isolement, quoi, la fin du fin, quoi. Et je trouvais aussi, là, on voulait lire un témoignage d'un médecin qui s'appelle Dominique Fauchet et qui était docteur au QI de Fresnes. Et son témoignage est intéressant pour apporter des précisions sur les conséquences de l'isolement sur le corps et sur le psychisme de la personne, quoi, de l'être humain. Donc cette femme, Dominique Fauchet, a écrit un mémoire sur les conditions de détention que subissent les isolés. Elle explique les différentes pathologies que provoque l'isolement sur le plan physique et mental. Donc voilà, un extrait de son mémoire. Un grand nombre de troubles sont sans nul doute à attribuer... j'arrive pas à lire... Ouais, je suis mal entre les lunettes, c'est écrit petit, le micro, je suis un peu mal engoncée, plus la voix qui est cassée. Allez, je reprends. Un grand nombre de troubles sont, sans nul doute, à attribuer au QI. Les stimulations sensorielles sont réduites, tant l'environnement est monotone. Ils se plaignent souvent de gènes oculaires. Les anomalies de la vision sont constantes en prison. Le champ de vision est limité au mur de la cellule. L'accommodation au loin ne se fait plus. Au QI, ils ne voient plus jamais l'horizon. La position de repos pour l'œil va de 15 mètres jusqu'à l'infini. Au quartier d'isolement, l'œil n'est donc jamais au repos. Les yeux, habitués à la pénombre, souffrent de la luminosité extérieure. Le port de lunettes de soleil est interdit. Certains éprouvent des difficultés à soutenir le regard pendant un entretien. 80% de la communication passe par le langage non-verbal. Leur capacité de communication est donc limitée à 20%. Le goût se modifie. Plusieurs prisonniers en QI ont signalé qu'ils perdaient la notion de saveur. La nourriture servie froide est au mieux insipide et présentée dans de grands cercueils. C'est le nom des grands plats de service. Sans aucun effort de présentation. L'audition est en revanche excessivement stimulée. Le bruit des verrous, des chasses d'eau, des chaînes IFI, des télévisions, des barreaux sondés, des cris du personnel. La communication des ordres entre les quatre étages se fait en hurlant et les autres prisonniers. La notion de plaisir est bannie. La souffrance morale concerne toute personne détenue. Cependant, il semble qu'elle soit poussée à son paroxysme à l'isolement. Cette souffrance a de multiples causes. L'exacerbation des contraintes carcérales, la monotonie, le poids des autres, trop présent ou trop absent, le manque d'intimité, l'absence de vie sociale, la perte de l'image et de l'estime de soi, la perte d'autonomie. Ils ont à faire de nombreux deuils, étant sans cesse en rupture. Transfert, départ du voisin avec qui ils commençaient à sympathiser, renoncement divers. Lorsqu'un de leurs proches est malade, ils savent qu'en cas d'aggravation et de décès, ils ne pourront même pas l'accompagner. Ils vivent cette situation comme une négation de leur personne et de leur dignité. Ils constatent peu à peu les répercussions physiques et psychiatriques de l'isolement. Ils les redoutent, les ayant rencontrés chez d'autres. Parfois, ils semblent avoir du mal à se supporter eux-mêmes. Et ils mobilisent leur défense pour garder leur intégrité. Les isolés se retrouvent dépossédés de tout ce qui, normalement, donne un sens à la vie. La perte de leur identité commence par le fait que très rares sont ceux qui s'adressent à eux en disant « monsieur » ou en usant de leur prénom. Être isolé, c'est n'avoir personne à regarder et personne qui vous regarde. Sur eux ne se posent que des regards voyeurs, scrutateurs, réprobateurs, teintés de jugement. Certains soignants, comme le personnel pénitentiaire, ne voient plus l'homme qui est derrière les étiquettes. Être isolé, c'est n'avoir plus personne à toucher. Le seul contact sont les palpations à toute entrée et sortie de la cellule.
Être isolé, c'est n'avoir plus personne à qui parler. Les relations affectives se rompent dès l'incarcération et au fil du temps. Les parloirs sont de plus en plus rares. Certains s'inquiètent de parler à haute voix dans leur cellule. D'autres se referment dans un mutisme complet. Les isolés perdent la notion du temps. Le temps ne leur appartient plus, ils sont à la disposition des autres. L'exemple des visites médicales est frappant. Elles se font n'importe quand, et le médecin peut arriver au moment de la sieste, du repas. Le prisonnier ne peut choisir ce moment et le refuse rarement. Le plus rapidement possible, après l'arrivée en quartier d'isolement, je les reçois en consultation. Je constate que les périodes d'isolement ou de quartier disciplinaire n'apparaissent pas clairement dans le dossier médical. Je leur propose de solliciter un entretien, sans hésiter, s'ils en ressentent le besoin. La plupart me demandent de les convoquer, quand j'ai le temps. Ils expriment par là une certaine résignation. Ils renoncent à demander quoi que ce soit. Être isolé, c'est perdre son autonomie, encore plus que dans le reste de la détention. La perte d'autonomie, c'est dans les gestes quotidiens. Ne pas ouvrir soi-même la lumière ou la douche, dépendre des autres dans toutes les démarches pour cantiner, pour suivre des études. C'est la perte des responsabilités, c'est l'absence de décision à prendre, tout étant organisé pour les autres. Tout nécessitant l'autorisation, le bon vouloir des autres. L'infantilisation est permanente. Les échanges ne se font plus que sur le mode d'adulte à enfant et non d'adulte à adulte. Les décisions sont prises sans toujours informer les intéressés. Certains tentent de personnaliser leurs cellules. Tel homme reçoit des remontrances car il expose les dessins de son enfant au-dessus de son lit. Tel autre se voit interdire d'afficher un poster représentant un Christ. Ceux qui ont encore des liens affectifs dehors installent quelques photos ou cartes postales au-dessus de la table ou du lit. Et voilà ceux qu'ils aiment sous le regard de ceux qu'ils n'aiment pas, à la merci de leurs commentaires. Lors des fouilles de cellules, il arrive que les affaires soient mises sans dessus-dessous, détériorées, les photos déchirées. Pour la sécurité, au quartier d'isolement plus qu'ailleurs, les fouilles sont fréquentes. Chaque fouille de cellule et chaque retour de parloir s'accompagne d'une fouille au corps. Nue, la personne détenue se penche en avant, tous alors que les surveillants guettent son orifice anal. Beaucoup renoncent à investir un espace qui, bien qu'hermétiquement clos, ne peut pas constituer une bulle protectrice, un chez-soi. Ils considèrent comme une faiblesse l'aménagement de leurs cellules, signe d'acceptation de leur situation. Tout ce plaidoyer contre le quartier d'isolement pose bien évidemment le problème des isolés, volontaires, sachant que l'isolement est néfaste. Que faire lorsqu'une personne réclame l'isolement pour être au calme? Cette aspiration au calme est légitime. Accepter l'isolement volontaire d'une personne et se battre pour faire reconnaître les risques de ce type de détention pour les autres. Une contradiction permanente est difficile pour le médecin. Une autre contradiction se pose au médecin. Soigner des personnes détenues en isolement fait-il du médecin une caution du système pénitentiaire et d'un mode de détention?
¡Suscríbete al canal!
Alors, vous êtes toujours sur le 89.5 FM Radio Duo à l'écoute de l'émission Papillon. Alors, désolé pour les oreilles sensibles, il en faut pour tous les goûts. Et Nabil, si tu nous écoutes, eh ben, c'était un petit morceau qui t'était dédié, voilà, une petite pensée amicale. Alors, donc on va reprendre sur le thème des longues peines et des quartiers d'isolement. Et en fait, donc pour conclure tout ça, on va en arriver un peu à notre troisième partie. Alors, si on considère faire une longue peine, aller en quartier d'isolement, c'est clair, c'est des peines qui sont éliminatrices. Mais bon, pas que, parce que moi, ça m'ennuie un peu quand même d'évacuer cette question des courtes peines, bien que tu disais faire 10 ans et faire un an, c'est pas pareil. Mais quand même, les mécanismes qui sous-tendent le caractère éliminatoire d'une peine, c'est les mêmes quand on fait une longue peine et quand on fait une courte peine. Alors après, on détaillera plus dans la prochaine émission, mais bon, c'est vrai que faire une longue peine, il y a quand même une organisation structurelle, il y a le quartier d'isolement, il y a plein de choses qui rentrent aussi en compte et qui sont quand même plus lourds, quoi. Mais en tout cas, les mécanismes sont de manière générale les mêmes. Alors tout d'abord, pour illustrer ça, donc on va continuer parce qu'on a quand même voulu tout le long de l'émission s'appuyer sur les témoignages des premiers concernés, donc de ceux qui vivent la prison, qui sont dedans. Et donc on a une petite citation. Et alors, franchement, il fait obscur dans le studio et moi je vois pas bien là. Donc c'est une citation de Philippe Maurice et qui dit « Je maudis cette lente destruction de l'homme, le bagne autrefois tuait salement. » Il tuait par le sang, il détruisait l'enveloppe, le corps. Maintenant, tout le système carcéral mine l'intérieur, le contenu. La fin n'en est que plus longue, plus insupportable et plus terrible, mais elle est propre. Elle ne laisse pas de traces apparentes visibles. Alors déjà, on voulait repartir aussi de l'exemple de Christophe Kider. On en parlait tout à l'heure, qui est assez connu pour la tentative d'évasion de Fresnes en 2001. Et dernièrement, l'évasion de Moulins en 2009, et qui, selon les calculs du ministère, est libérable en 2037. Et là, cette semaine, donc, on était à son procès au TGI de Lyon. Et là, il a repris 3 ans, en fait, pour une autre tentative d'évasion, celle de Lannemezan. Et donc, déjà, si on rajoute encore ces 3 ans, on peut se demander, tout simplement, à quoi ça sert, je sais pas, et c'est ce que disait son avocate, et vraiment, c'est vraiment un sentiment qu'on a ici et qu'on partage. C'est sincèrement, vous serez où vous en 2037, vous serez où en 2040,
et puis il faut pas perdre de vue qu'il doit déjà avoir une bonne trentaine d'années, ce gars,
voilà,
donc dans 30 ans, il aura quel âge, quoi,
donc exactement, et donc tout simplement, à quoi ça sert ? Enfin, à quoi ça sert, quoi, si ce n'est empiler des années de manière un peu sadique. Alors j'ai essayé un peu de décortiquer en respectant le temps qui m'est imparti. Pourquoi on peut dire que c'est éliminatoire ? Alors moi déjà, ce que j'ai noté, c'est que une peine. En fait, je vais pas dire longue peine ou courte peine. Je vais parler de peine éliminatoire. Et donc c'est éliminatoire dans le sens où il y a une dégradation physique du corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que tout simplement, on va prendre le cas concret des soins en prison. On sait que les soins, ils sont de mauvaise qualité et que les docteurs ne sont pas toujours à même de respecter le serment d'Hippocrate. Et qu'en fait, tout ce qui se passe le temps d'une courte peine, sur une longue peine, tout ça va être multiplié. Donc les soins de santé sur une longue peine vont être multipliés, donc seront de plus en plus... Enfin, ça sera toujours de mauvaise qualité, si on ne trouve pas un médecin un peu compréhensible, etc. Et on va cumuler un bagage comme ça, sanitaire, de santé, qui sera pas mal altéré, quoi. Et Christophe, il disait à son procès qu'il avait eu un problème à la cheville et qu'il aurait eu tout simplement eu besoin d'un plâtre. Et puis, il l'a pas eu, son plâtre, il l'a jamais eu, quoi. Alors que nous, on en aurait un. Donc, on traîne un bagage comme ça au niveau du corps qui est assez dur, quoi. Pareil pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Enfin, C'est assez impressionnant. Alors, je ne sais pas si tu voulais reparler des infirmières qui aussi...
Oui, il y a les infirmières de Corba qui se sont mises en grève et qui ont tiré une sonnette d'alarme, nous dit-on dans un journal local, parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas prendre en charge, comme elles le souhaiteraient, la santé des détenus, aussi bien pour pouvoir les visiter que pour pouvoir leur donner les traitements adéquats. Donc voilà, c'est juste pour dire encore que à Corba, ça se passe toujours pas bien, quoi. Bon, après, et c'est une nouvelle construction.
Après, il y a c'est clair qu'après, il y a des traitements. Voilà, quand un détenu a besoin d'un traitement, il l'a pas. Par contre, on va lui filer des cachetons et tout pour l'endormir, quoi. Ça, c'est clair.
Quand tu parlais, par exemple, de Christophe qui a ce problème à la cheville, alors il va se rétablir comme il peut. Et puis, dans 5 ans, de toute façon, ça sera pas consolidé correctement. Et ça se trouve, dans 5 ans ou dans 6 ans, il boitera parce que ça a été mal soigné, quoi. Il y a des conséquences après sur du long terme.
Alors après, il y a aussi un autre truc que j'ai relevé, c'est toujours ça se multiplie dans la durée. Quand on rentre en prison, on en a déjà parlé à l'antenne, les sens y sont altérés en fait, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. Donc sur une longue peine, on imagine qu'au bout de 10 ans, 15 ans, enfin même 3 ans, c'est pire. Par exemple, il y a un détenu des Baumettes qui dit, alors là c'est sur le toucher par exemple, sur l'absence de contact physique. Donc la plupart des gens veulent pas admettre, mais sexuellement les problèmes commencent dès le jour où on franchit la porte. Il y a un blocage, la moindre caresse est une éjaculation précoce. Donc voilà, donc on imagine à peine rentrer, on imagine au bout de 6 mois, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, enfin c'est des bombes à retardement, quoi, tout simplement. Ensuite, il y a aussi, oui, vous vouliez dire un truc, non? D'accord, je crois que... Ok. Donc, compilé à ça, sachant qu'en plus, la prison, c'est un environnement anxiogène et qu'il y a bien des maladies. Bon, je suis pas médecin, mais bon, on se doute qu'il y a plein de maladies qui sont liées au stress. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Enfin, il y a pas mal de détenus, quand même, qui chopent pas mal de maladies en tôle, qui peut-être les auraient pas chopées à l'extérieur, et qui... des maladies quand même graves, des cancers, des choses comme ça. Et on a pas mal qui sont évacués avant la mort, quoi, parce qu'ils pourraient crever en tôle avec leur longue peine, quoi. Sauf qu'on veut pas que ça rentre... Enfin, sauf que l'administration pénitentiaire, et ça arrange le ministère de la Justice, de justement, dans certains cas, de faire sortir, quand ils voient que le prisonnier est en fin de vie, et ben ils le font sortir genre 2-3 mois avant la fin de sa peine, et comme ça, les chiffres sont assainis, quoi. Donc voilà. Et alors il y a un autre truc aussi, pourquoi une peine c'est éliminatoire et pourquoi encore ça se multiplie en fait quand c'est une courte peine, pourquoi ça se multiplie quand c'est une longue peine? Il y a aussi au niveau de la relation, de la remise en question du lien avec les proches de la personne qui est incarcérée. Donc et ça touche à la solidarité et d'abord au sentiment et à la solidarité en fait. La prison, en fait, c'est l'exclusion sociale par excellence. Et dès l'entrée, en fait, certains proches vont pas accepter le choc de l'entrée en prison de la personne, de leur ami, quoi, ou de leur fils, ou de, etc. Et ne viendront pas au parloir dès le début. Ils viendront pas, quoi. C'est pas possible. C'est trop dur. Et dans la durée, donc on se dit, bon, bah déjà, si là, et dans la durée, enfin, c'est quand même assez dur de tenir, etc. Il y a des couples qui se déchirent, enfin bref, des parents qui voient plus leurs enfants, etc. Et il y a un truc qui, moi, j'ai trouvé important de relever. Et alors, je sais qu'à Papillon, on est beaucoup de filles, mais c'est pas que pour ça. Il faut quand même savoir que les femmes, elles sont quand même plus solidaires avec leurs conjoints incarcérés que les hommes avec leurs conjointes incarcérées. Dans le temps, les femmes restent, alors que les hommes partent, généralement. Et donc, tout ça, cette cellule des proches qui est hyper important pour le détenu, que ce soit la famille, les amis, tout ce soutien psychologique et affectif, quoi, bah, il s'effrite dans le temps, en même temps que toute la solidarité matérielle et financière. Parce que aller soutenir un proche en détention, ça implique plusieurs choses. Ça implique l'aider financièrement pour la cantine. Ça implique aussi d'aller le voir. Et aller le voir, c'est un coût financier et un coût de l'organisation de la vie de tous les jours de la personne. C'est prendre un jour de congé pour aller à un parloir s'il est à l'autre bout de la France. Ou même ne serait-ce aller à la Talaudière. C'est, pour quelqu'un qui est un synthé, c'est une après-midi de foutu, quoi. Enfin, tout simplement. Et... Donc ce coût temps horaire, en fait, il fait que, bah voilà, sans compter qu'il bah, y a les frais juridiques, s'il n'y a pas l'aide juridictionnelle, etc., les rendez-vous pour, bah, si on veut soutenir le prochain incarcéré, c'est aller voir l'avocat, enfin tout le combat de Catherine, de Catherine Char de Larpie, qui est la maman de Christophe, c'est un combat à plein temps, quoi. Et donc voilà. Et l'exemple concret donc sur Christophe, c'est, enfin lui là, c'est un prisonnier quelque part qui a pas de la chance, mais qui a quand même des gens qui le soutiennent. Et ça, c'est pas tout le monde. Et c'est hyper dur parce que c'est quand même, il a quand même fait un tour de France des parloirs. Et c'est ce qu'elle dit sa mère. Puis 95, il a quand même fait 29 tôles quoi.
Moi, je veux bien rajouter juste un truc par rapport à ça. Donc je sais pas si tu l'as notifié, il y avait. Un procès pour une tentative d'évasion ratée, etc. Ouais. Et en fait, c'est dans le fonctionnement de la justice. Et par exemple, à son procès, la présidente lui a dit texto, on n'a pas pu vous juger depuis 2006 parce que vous arrêtez pas de... Vous êtes jamais au même endroit. Et c'était naturel, en fait. C'est vraiment dans le fonctionnement du truc. C'était naturel. Depuis 2006, en gros, il n'est jamais resté plus de 2 mois au même endroit. Donc, il n'a pas pu être jugé. Mais c'était pas plus perturbant que ça, quoi. C'est normal. Mmh.
Bah là, surtout que c'était une tentative d'évasion de Lannemezan. Et là, il était jugé à Lyon, à Corba. Enfin, à Lyon, à OTGI, alors qu'il est à Lyon. Donc, ouais. Donc voilà, enfin tout ça, ça effrite et dans la longueur, dans la durée, on va pas jeter la pierre quoi, mais dans la durée, c'est vrai que les prisonniers ont tendance à rester isolés quoi.
Mais c'est ce que veut justement la paix quoi, parce que s'il reste jamais deux mois dans la même prison, ils veulent que les gens soient de plus en plus isolés quoi.
Alors il y a un autre point aussi, pourquoi c'est une peine éliminatoire alors? Pourquoi une peine de prison, en fait, et une longue peine ou une courte peine, c'est une peine éliminatoire, tout simplement parce que le temps qui passe, en fait, et enfin moi, c'est un peu ce que j'ai retenu, ça influe, en fait, sur la résistance des prisonniers, en fait, c'est-à-dire leur combat. Alors, en fait, à un premier niveau, on peut déjà voir au niveau de la défense, en fait, que les liens avec l'avocat, jusqu'au procès, ils sont maintenus ou, enfin, ça dépend des avocats, et que après, généralement, une fois le procès passé, bah, enfin, c'est un peu la réalité. Voilà, la personne incarcérée, elle n'entend plus parler ou peu de son avocat, quoi, parce que quand ce qui lui arrive en prison, en fait, ça l'intéresse pas trop l'avocat. Et en fait, moi, il y a une avocate qui m'a particulièrement étonnée, bah, c'était à ce procès de Christophe Kider, elle s'appelle Delphine Bozel. Et elle se place dans, enfin, elle soutient son client, enfin, parce que justement, elle se déplace, elle va le voir, elle se bouge, elle a fait une plaidoirie, franchement, qui était, moi, je trouvais exemplaire, quoi. J'ai vu peu de procès dans ma vie, mais celle-là, elle m'a marquée, quoi. Et aussi parce que tout simplement, elle se place pas, c'est pas qu'elle est courageuse, moi, enfin, c'est pas ça que je pense, c'est qu'elle se place pas dans la relation client. Enfin, elle le considère pas comme un client, elle le considère comme un homme à défendre, quoi. Enfin, comme une personne à défendre, et c'est là en fait le point qui fait que je pense un avocat peut durer, en fait, c'est s'il a cette posture-là. Donc voilà. Mais bon, c'est pas le cas de tous les avocats et de peu, je pense. Et pourquoi aussi, donc toujours sur la résistance du prisonnier, pourquoi c'est éliminatoire? Parce que comme bon, alors là, je vais pas revenir, mais ce que disait le texte de Dominique Fauchet. Elle prenait l'exemple du quartier d'isolement, c'est que en fait, on voit une résignation chez les prisonniers, et voilà. Et du coup, bah, que pour échapper à ce quotidien de la peine, certains se suicident, quand d'autres demandent le rétablissement de la peine de mort pour eux, et rien que pour eux, hein, Clairvaux, ça c'est l'appel de Clairvaux, donc je vais pas relancer pour ça, sur ça. Et en fait, il y a une autre possibilité, hein, c'est l'évasion, quoi. L'évasion, en fait, c'est un acte de survie, tout simplement. Et c'est sur ce sur quoi aussi se base cette campagne. Elle part aussi d'une évasion. Et que, voilà, c'est ce qu'il a dit, il a conclu, Christophe Kider, lors de son procès de jeudi dernier, a conclu en disant, je n'ai pas peur de mourir, mais je veux pas crever, car en prison, on ne meurt pas, on crève. Et là, on voit vraiment que là, c'est, ben voilà, c'est de la survie, c'est de la résistance, c'est face à une peine éliminatrice, en fait. Et il y a un, Il y a aussi résister, en fait. Moi, il y a un témoignage qui m'a interpellée dernièrement, là, qui est aussi dans le journal de l'Envolée de ce trimestre. C'est en fait un témoignage de Salim Mella. Et on avait eu son frère au téléphone, en fait, qui lui rendait public la situation de son frère en détention. Et en fait, Salim Mella, il écrit un mot en disant... Enfin, il écrit une lettre en disant... voilà, pour survivre à cette peine, et c'est aussi se lier à l'extérieur. Et il dit... Je suis perdu et la seule chose qui me fait tenir face aux tortures physiques et morales des surveillants, c'est de pouvoir dénoncer tous ces problèmes dans les prisons et de parler au nom de tous ces détenus qui n'osent pas le faire. Alors voilà, c'est la prise de parole qui est importante. Et alors, est-ce que je parle maintenant vite fait de la sortie ? Ouais. Alors, juste parce qu'il y a quand même un jour, pour certains, une sortie après une peine de prison, qu'elle soit longue ou courte, enfin après une peine éliminatoire. Et cette sortie, en fait, elle est vécue comme une perte de repère, parce que être habitué pendant 15 ans, être dépossédé de sa vie, de son organisation, de son temps, c'est aussi le premier jour, c'est une angoisse, quoi. Et je crois que tu avais un témoignage, Elsa, si tu voulais le donner sur ça. Enfin, si t'avais...
Non, en fait, il y avait deux exemples. Il y a un exemple tiré d'un documentaire qu'on a vu il n'y a pas longtemps, dont je ne me souviens plus le titre. Sur un HP à un hôpital psychiatrique à Ville-Évrard. Et en fait, il y a un gars qui est enfermé là-bas depuis 11 ans, qui est traité là-bas et plus ou moins enfermé. Et il dit, mais de toute façon, moi, je veux plus sortir. Hein, c'est clair et net. Maintenant, c'est fini pour ma gueule. Moi, je pourrais plus jamais sortir. C'est comme ça. Il dit pas que c'est bien, qu'il est bien, mais il dit juste, je pourrais plus sortir. Et l'autre truc, c'est justement... En fait, il y a une des choses dont on ne parle peut-être pas beaucoup quand on parle de la tôle, c'est du sentiment à la sortie. Alors, sûrement qu'on est vachement content de sortir, mais aussi, je pense que ça se dit peu, ça doit être très dur à dire, mais sortir de tôle, c'est avec la blessure que ça peut nous avoir infligée intimement, ça laisse des espèces de cicatrices vraiment profondes. Et souvent se retrouver dans la société extérieure, quoi, ça peut être en fait une grande claque qui est vraiment un traumatisme qu'on garde en soi. Donc moi, c'est un pote qui a fait 3 ans qui m'a dit ça. Et donc j'imagine quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans, mais comment il sort, quoi, psychologiquement, j'ai du mal à imaginer.
Et puis, pour matérialiser un truc, je vais me dépêcher, c'est juste par rapport à l'espace. Quand on sort, on n'a plus du tout la même dimension de l'espace, c'est le même vécu. Et par exemple, les distances fréquentes sont les détenus disent fréquemment que quand ils sortent, après, ils se tapent souvent contre les meubles. Enfin, tout est altéré, en fait. Donc voilà. Alors du coup, je vais arrêter là pour ça, pour ce principe du caractère éliminatoire d'une peine. Et on va rebondir sur... Il n'y a pas d'interlude, il me semble que ça va être le témoignage d'Arles. C'est ça ? Ou pas, je me trompe ?
On en parlera de toute façon pour le 28 novembre, de tout ça.
Et en fait, sur ce truc de la résistance et de la prise de parole.
Avant de lire le communiqué qui suit, il nous faut préciser que si nous nous présentons à vous en cagoulé, c'est pour éviter la personnalisation de l'action en cours. Nous ne sommes que des détenus longue peine parmi d'autres. Le message que nous portons est celui de milliers d'hommes et de femmes sans voix, enfermés dans les prisons de France. Par ailleurs, nous tenons à indiquer que c'est pour des raisons de sécurité que nous portons des cagoules. Inutile de préciser que les autorités pénitentiaires n'apprécieront pas notre initiative, que la répression qui s'abattra suite à la diffusion publique de ce document sera importante. Les mesures de sécurité que nous avons prises risquent d'ailleurs de ne pas nous épargner les sanctions. C'est pourquoi nous demandons par avance aux associations et citoyens soucieux de la défense des droits de l'homme de veiller sur la centrale d'Arles dans les jours et semaines à venir. Cela évitera que ne se produisent des violences et des abus divers commis par les tenants de la répression. Bien évidemment, si le monde carcéral n'était pas ce lieu de non-droit où le droit d'expression, d'association était interdit aux détenus, nous n'aurions pas été obligés de mener pareille action. C'est la nature antidémocratique de la prison qui nous amène à agir de la sorte. L'année 2000 aura été, entre autres, l'année de la révélation au grand public de l'horreur carcérale en France. Une honte pour la République, a-t-il été dit par beaucoup. Nombre de problèmes ont été soulevés, dénoncés. Des parlementaires à l'Église, en passant par diverses associations, tous ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet dans une certaine unanimité. Nous en prenons acte. Mais comme toujours, la parole n'a pas été accordée aux principaux intéressés, à ceux et celles pour qui le quotidien est l'infamie carcérale, c'est-à-dire les détenus eux-mêmes. La parole ne nous est pas donnée, jamais. C'est pour nous, c'est pourquoi nous avons décidé de la prendre ici et maintenant. C'est particulièrement au nom des détenus longue peine que nous nous exprimons, nous les laissés pour compte, ceux pour qui l'horizon n'est pas que désespoir et haine, n'est que désespoir et haine. Nous sommes là, face à vous, pour exiger que nous soient appliquées des mesures justes, équitables et qui permettent de croire que nous n'avons pas été condamnés à la mort lente, à des peines qui ne sont qu'un substitut à la peine de mort. Nous sommes là pour dire haut et fort que nul n'a intérêt à ce que nous nous transformions en bombes humaines, car viendra le jour où nous serons libérés, où nous réintégrerons le corps social. Qu'en sera-t-il si des années durant, le système carcéral nous meurtrit, nous avilit, nous blesse jusqu'au plus profond de notre être? Il est temps que cette réalité cesse. Il est grandement temps que cette prison mangeuse d'hommes soit l'objet d'une révolution culturelle qui lui permette d'entrer dans le troisième millénaire de façon plus digne.
Fort de notre expérience, au nom du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine, nous exigeons que le gouvernement français prenne les mesures suivantes. Premièrement, refonte de l'échelle des peines et alignement sur les pays aux conceptions pénales et moins répressives. En clair, nous revendiquons l'abolition des longues peines. La fin des cumuls de peines qui font que des hommes et femmes aient des décennies de prison à purger, mais également abolition de l'insupportable peine de perpétuité. Il est reconnu par tous les spécialistes en la matière que, passé un certain temps, la durée de la peine n'a plus aucun sens, qu'elle n'est qu'acharnement, vengeance et destruction de l'individu. L'an 2001 verra commémorer le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Voici l'occasion d'en finir avec les longues peines qui ne sont rien d'autre qu'un substitut de la peine de mort. Deuxièmement, libération immédiate de tous les détenus atteints de maladies incurables. Mourir en prison est le sort le plus infâme que puisse vivre un être humain. Nous demandons que soit respecté le droit à mourir dignement parmi les siens, hors du contexte carcéral. Troisièmement, abolition des quartiers d'isolement et des mitards. C'est la fermeture pure et simple de ces outils ultra-répressifs que nous exigeons. Ces lieux où bien trop souvent le droit est celui le plus fort, où le fonctionnaire devient bourreau, les morts suspectes trop nombreuses, il faut en finir.
Voilà pour les mesures à prendre qui tiennent de l'urgence. Car chaque jour qui passe est un jour que nous vivons comme une vengeance sociale qui nous serait appliquée et non pas comme une mesure de justice. Mais la réalité carcérale présente est composée de bien d'autres mesures que nous tenons à dénoncer et voir changer dans les délais les plus brefs. Il s'agit par exemple de l'impossibilité d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des enfants ou tout simplement d'avoir le droit à la tendresse. Autant d'éléments qui sont constitutifs des droits élémentaires de la personne humaine. Le projet extrêmement limité des unités de vie familiale, qui toucherait 3 établissements sur les 187 actuels, est une insulte qui nous est faite. Sachant que nombre de pays ont pour les rapports intimes, pourquoi la France ne se lance pas dans pareil projet qu'à titre expérimental et donc limité? Combien de décennies nous faudra-t-il encore attendre pour que ces droits élémentaires nous soient reconnus? Combien de familles, de couples, devront-ils se disloquer encore, avant que les décideurs politiques et autres fonctionnaires agissent de façon responsable ou tout simplement humaine? Autre souci majeur, la transformation des maisons centrales en annexes d'asile psychiatrique. De plus en plus de détenus n'ont rien à faire en prison. Leur état psychologique est incompatible avec la prison. Nous demandons qu'ils soient soignés dans des lieux adaptés. Nous tenons également à dénoncer le scandale des usages de produits substitution dans le monde carcéral, Bien trop souvent, la tranquillité en détention a pour prix le maintien de détenus en état de dépendance, à des drogues de substitution. Certains détenus se transforment même durant leur détention en drogués, alors qu'ils ne l'étaient pas lors de leur incarcération. Que penser d'une institution qui maintient et encourage des hommes et des femmes à la toxicomanie, avec les deniers de la nation? Nous exigeons également que l'on en finisse avec les mesures de censure, la violation permanente de notre courrier, de nos rencontres avec nos proches, nos familles, n'ont qu'un objectif, nous imposer une autocensure qui aboutit à l'aliénation de la pensée et l'anesthésie des sentiments, mais également à terme à la disparition des liens familiaux. À qui fera-t-on croire que l'on veut nous réinsérer, alors que l'administration pénitentiaire n'a de cesse que de nous couper de la famille, en nous incarcérant à des centaines de kilomètres du lieu d'habitation de nos proches, et que tout le fonctionnement de l'institution ne mène qu'à l'infantilisation et à la déresponsabilisation du détenu? Dans la rubrique des réalités scandaleuses, comment ne pas évoquer le travail pénal? Pourquoi le droit du travail n'est-il pas appliqué aux personnes détenues? Pourquoi le patronat français trouve-t-il parfois plus d'intérêt à donner du travail aux prisons françaises plutôt que de délocaliser vers un pays du tiers-monde? La réponse est simple. Parce que le détenu est corvéable à merci et que les conditions offertes par l'administration pénitentiaire sont celles dont rêvent tous les esclavagistes modernes. Est-ce dans de telles conditions que l'on voudrait nous inciter à nous réinsérer dans la société par le travail? Et que dire de ces salaires misérables qui ne nous permettent pas de rembourser décemment les dites parties civiles? Les décisions de justice en la matière sont sacrifiées sur l'autel du profit. Autre motif d'exaspération, le désintérêt que porte l'administration pénitentiaire à la culture, à l'art, à ses aliments de l'esprit et des sens. Comment peut-on se construire ou se reconstruire si nous est nié cette part vitale de notre être, notre pouvoir de création, notre sensibilité, si la culture et l'art ne nous sont pas accessibles? Nous tenons à dénoncer ici, avec force, l'activité nocive d'une majorité extrêmement agissante du personnel surveillant, pour qui le détenu est l'ennemi à battre. Ces fonctionnaires, refusant de respecter l'esprit des lois, voire même souvent leur simple application, représentent un danger permanent pour l'institution en général, mais plus prosaïquement pour la population pénale et pour leurs propres collègues. Il est temps que ces gens soient neutralisés par ce dont la mission est la mise en application des textes et le suivi du bon fonctionnement des établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous tenons à attirer l'attention sur la mise en application de la nouvelle loi dite la présomption d'innocence. Nous craignons que, là encore, le corps des magistrats chargés de l'application des peines ne continue dans sa grosse majorité à appliquer les textes de façon on ne peut plus restrictive. Voilà des années que la politique menée en matière d'application des peines est un désastre. Il faut que cela cesse. Il faut que cesse l'acharnement dont les longues peines sont victimes de la part du secteur ultra-répressif de la magistrature française. Nous refusons d'être plus longtemps les victimes de ces bourreaux assermentés. Pour conclure cette liste non exhaustive, nous souhaitons dire combien il nous semble nécessaire, vital, que les autorités pénitentiaires s'attachent à remplir leur mission d'aide à la réinsertion des détenus. Force est de constater que nous, détenus des maisons centrales de France, ne bénéficions pas de mesures allant en ce sens. Manifestement, la volonté politique n'existe pas et les moyens mis en place sont quasiment inexistants. Il nous paraît clair que l'on nous sacrifie, que l'on nous destine à la récidive systématique. Nous refusons de servir de matière première à la politique sécuritaire de l'État.
Bien évidemment, nous saluons tous nos camarades qui se trouvent présentement en mur et vivant dans les quartiers d'isolement, ainsi que ceux et celles qui subissent l'insupportable sanction du mitard. Force, courage et détermination à tous et toutes. Un salut empreint de solidarité également pour tous les détenus se trouvant en maison d'arrêt. Les détestables conditions de vie en maison d'arrêt sont aujourd'hui connues de tous. Les changements s'imposent et vite. Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat, à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et vos grands-parents, nos parents et grands-parents étaient transformés en chair à canon, envoyés au front pour y crever en défendant des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui nous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique, prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard, car les portes des prisons se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps. alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant des malheurs, de nos malheurs, de nos vies sacrifiées.
C'est pourri comme transition.
Bon, alors on va essayer d'enchaîner du coup. Alors en fait, on vous l'a pas très bien présenté au début, mais on va faire rapide. Ce que vous venez d'entendre, c'était un enregistrement vidéo qui est du 23 octobre 2005, il me semble. Et en fait, qui était paru, donc c'est de la centrale d'Arles. C'est trois détenus de la centrale d'Arles qui ont pris la parole de manière complètement hallucinante. Vidéo, etc. Et en fait, c'est sorti comme ça au journal en présence, au journal de France 3, en présence de la ministre de la Justice. Et en fait, cette vidéo, bah, c'est un combat, quoi. Ils reviennent sur tout, à peu près tout ce qu'on a dit durant cette émission. Et voilà. Et ce qui est important, c'est tout ça, en fait, ça rompt le quotidien d'une longue peine, cette lutte, enfin, d'une peine, tout simplement, cette lutte dont il parle, c'est vraiment, comme dit Omar Mella, voilà, c'est un combat, c'est une prise de parole, et nous, en fait, on est là pour relayer ça.
C'était en 2001, en fait.
En 2001, pardon, excusez-moi.
Et quand elle avait diffusé, où est-ce que tu dis, en fait, la ministre de la Justice, je sais pas trop qui c'était, en fait,
n'avait
pas...
Elle était décompensée.
Ouais, c'est ça, en fait, elle a voilà. Juste sorti, et les victimes. Mm. Et en fait, voilà, elle avait juste rajouté ça.
Ben, ouais. Ouais, non, mais justement, je voulais rebondir là-dessus en conclusion. C'est que là, aujourd'hui, on a essayé de détailler un peu qu'est-ce que c'est pour nous les longues peines et les quartiers d'isolement et pourquoi on veut protester contre. Et justement, elle parle des victimes. Et nous, quand on discutait pour préparer, ce qu'on s'est dit, c'est mais ça leur sert à quoi aux victimes et ça leur change quoi dans la vie qu'il y ait des pélos qui allaient crever à petit feu en tôle, quoi. Moi, je comprends pas, quoi. Et aussi, justement, ce qu'on s'était dit, c'est « Merde, c'est super glauque tout ce dont on parle, mais en fait, nous, le but, c'est pas de se dire « c'est horrible » et de se laisser abattre, c'est vraiment de se bouger et de soutenir les gens qui se bougent, que ce soit dehors ou dedans, de faire connaître les luttes qui se passent, les protestations, etc. Donc... voilà quoi. Alors, donc entre autres par exemple, je rappelle que vous pouvez nous écrire, on attend toujours vos contributions. Donc je vais donner l'adresse très précise, munissez-vous d'un petit stylo. Donc c'est émission Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 002 Saint-Étienne, CEDEX 1. Voilà. Sinon, il y a aussi l'adresse email pour ceux qui ont accès à Internet. Donc, c'est émissionpapillon, tout attaché, @riseup.net. Donc, ça, c'est riseup.net. Voilà. Et puis, sinon, nous, ce qu'on propose, c'est une rencontre en live pour se voir et se rencontrer. Donc, ça, ce serait le 28 novembre. Donc, on ne sait pas encore exactement à quelle heure, mais... on veut faire une rencontre dans le cadre de ces campagnes contre les longues peines et les quartiers d'isolement. Donc, il y aura des gens du journal et de l'émission L'Envolée de Paris. Il y aura Catherine Charles de l'ARPI de Paris. Et puis, il y aura très probablement un avocat du collectif Libérer les Vivants.
Libérer Vivants. Ouais, c'était le détail.
D'accord, oui, d'accord. Détail important. Et donc ça sera le 28 novembre. Ce sera très probablement, et je l'espère, à l'immeuble occupé au 10 avenue d'Enfer Rochereau à Saint-Étienne, juste au-dessus de la gare. Voilà. L'autre chose, c'est que dans le cadre de cette campagne, toujours, il y a le journal L'Envolée. Ils ont sorti un hors-série spécial sur les quartiers d'isolement et longue peine. C'est un petit livre. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous voulez vous le procurer, vous pouvez nous contacter ou encore mieux, venir à ces rencontres du 28 novembre. Et aussi, le journal L'Envolée a sorti un nouveau numéro qui est toujours aussi bien. Voilà, donc pareil, venez nous voir et vous en aurez. C'est ce qu'on appelle la carotte. Et pour finir, vu qu'il ne nous reste presque plus qu'à se dire au revoir. J'ajouterai que là, donc, on a fait cette émission en live dans les studios de Radio Dio, 89.5 FM à Saint-Étienne. On est le dimanche 1er novembre. Cette émission, elle sera rediffusée le jeudi 12 novembre sur Radio Dio, à midi et à 17h. Et elle sera rediffusée sur Radio Canu, donc ça c'est en région, enfin c'est sur Lyon et sa région, le mardi 16 novembre à 20h. Voilà, et la prochaine émission Papillon, ce sera donc comme tous les premiers dimanches du mois, le dimanche 6 décembre de 17h30 à 19h.
Et n'oubliez pas que c'est nous, on a l'outil, et vous, c'est à vous de prendre la parole, et voilà, prenez la parole. Voilà. Lutter.
Et pour le 28 novembre, moi, je voulais juste rajouter que du coup, vous pouvez soit nous écrire pour avoir les infos, soit sinon, ça sera
affiché,
affiché probablement. En ville. Et ça sera sur le site internet du numéro 0. Donc, vous tapez juste numéro 0 et que sinon, il y aura...
On mettra sur banc public, enfin, tous ces trucs-là, quoi, si vous
voulez. Mais si vous voulez être sûr, vous regardez sur internet sur le numéro 0.
Et puis, apportez-nous des renseignements, si vous pouvez, sur la mort de cette personne à la maison d'arrêt de la Talaudière, pour qu'on ne puisse pas dire, les gens, ils meurent, et puis c'est comme ça. Non, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas rester indifférent et attendre et compter les morts de semaine en semaine, quoi. C'est pas possible.
Moi, je voulais juste faire un bisou au punk rocker internationaliste Payoup. Et notre nationaliste préféré, Marc.
Et Sainté a perdu hier, il fallait au moins que je le dise.
Et on s'en fout.
Ouais. Voilà. On veut pas plus moi. De football du tout.
Et moi, j'en profite pour faire une grosse bise à Nabil. Et puis, un grand courage et un grand bonsoir aux gens qui nous écoutent.
Pareil, Nabil,
surtout derrière les murs, quoi. Voilà. On voulait se quitter, Olga, avec un petit clin d'œil, c'est ça ?
Oui, moi, je voulais faire un clin d'œil à notre ami Charles Pasqua, qui, cette semaine, on en a beaucoup entendu parler, parce que c'est quand même un homme politique, un sénateur, un député, qui a été ministre de l'Intérieur pendant de nombreuses années, et qui a été très répressif pour les gens qui étaient étudiants dans les années 80. Ça a été les lois de Vaquet, répression Pasqua, les premiers charters, la grotte d'Ouvéa. Enfin bon, pour les gens qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, Pasqua, c'est quand même pas de la gnognotte. Donc on a appris cette semaine qu'il avait été jugé et qu'il allait avoir un an de prison à 80 ans. Donc il y a eu un grand émoi au niveau des médias. Après, on s'est... C'est toujours pareil, quoi. Lui, on en a parlé. Ça nous choque à son âge, un an de prison, et à comparaison des Christophe qui ont 40 années de prison, on n'en parle pas tellement.
Il y avait aussi le truc comme quoi c'était horrible de faire un an de prison, comme c'était long.
Oui, il y avait ça aussi.
Il y avait ça aussi.
Donc j'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais je voulais passer un petit morceau qui nous rappelait un petit peu que Pasqua, c'était vraiment un gros politicien qui faisait des choses qui m'intéressaient pas du tout.
D'ailleurs, donc on pourrait monter un comité de soutien. Ce serait vachement intéressant.
Bon, on verra ça plus tard. Allez, un petit peu de musique de House Vice.
Bisous Nabil.
Ciao.
Pour leurs droits, l'homme à l'écho c'est qu'il ne sera pas oublié. Si ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les machos, pas stop en gros et de vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, 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 vous serez tous sur les machos, pas stop en gros et de vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, il me fait de la peine. Il est gros, il est vieux, il est moche, il est bête, son nom c'est Le Pen. Son nom c'est Le Pen, son emblème c'est le FN. Il n'a qu'une ambition, c'est de nous créer des problèmes. Comparé à Hitler, sa mentalité est la même. Il fait la chasse aux immigrés, c'est même pas la peine. Fasciste,
robot nazi, il prépare des stratagèmes pour pouvoir éliminer toutes les personnes qui le gênent. Il ne fera pas long feu, je sais que c'est une mauvaise reine. Ceux qui l'auront suivi sont punis au même barème. Ça s'appelle tout, 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 vous serez tous sur les vaches. Face à Pandro et de Baguette, Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, tout, vous serez tous sur les vaches, au passeport Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Vous votez pour lui aujourd'hui, ne pleurez donc pas demain. Quand Dja Dja lui fera payer tous ses péchés d'assassin, vous vous repentirez, mais personne ne vous tendra la main. Il a profité de son esprit satanique et malin pour entraîner des profions dans ses idées de malsain. Y'en a qui sont grands et forts dans la tête, y'a que du gratin. Y'en a qui sont riches et gros, ils aiment s'habiller de satin. Ce qu'ils veulent, c'est abuser, nous contrôler comme des pantins. Ils veulent que la vie des immigrés soit pire que le tapin. Ça s'appelle tout. Tout, tout, vous serez tous sur les vaches, face à Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, 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 vous serez tous sur les vaches, face à Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Il me fait de la peine, il me donne la haine, Mbalabalangé. Dans le même bateau, tout, 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 vous serez tous sur les vaches, au passe de Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Ouais, on votait le 16 mars 86. Je vous dis, ces gens, ils ont fait bien des victimes. Ils ont opté pour un personnage rarissime. Le pire, c'est qu'ils étaient dans leur droit légitime. Tout comme Hitler quand il brûlait ses victimes. Je vous dis, mes frères, faut se lever contre le racisme. Parce que c'est bouffé par le patriotisme. Sans laisse faire ça, ça sera comme le nazisme. Comme Mussolini quand il tenait le régime. Ça s'appelle tout, tout, tout. Vous serez tous sur les vaches. Au passe en Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Tout, vous serez tous sur les vaches, au passe en Pandro et de Vague et Chirac, Le Pen dans le même bateau. Bye bye.